Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez également écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Jean-Thibaut Foultier. Bonjour.
Bonjour Yves.
Jean-Thibaut Foultier, tu es psychanalyste, mais aussi d'autres aspects, artiste, peintre.
Oui.
Et quelles sont d'autres passions pour toi ?
Alors effectivement, comme tu l'as dit, je suis psychanalyste, je suis peintre, j'enseigne également le Tai Chi Chuan et le Kung Fu, et j'écris. J'écris sur mon site, des textes qui sont présentés sur mon site, tybolt.fr, tybolt.fr, et puis j'ai fait quelques livres qui sont également présentés sur le site.
Donc, nous sortons de ce confinement qui a duré, en somme, 2 mois et demi environ. Qu'est-ce qui a permis à ce virus de soumettre une population entière ?
Eh ben c'est une question à laquelle je vais répondre par le biais du sujet, c'est-à-dire considérer que le virus est un sujet. Et aujourd'hui, donc, tu m'as présenté comme étant psychanalyste. Bon, moi, j'aimerais rappeler quand même qu'un psychanalyste, il l'est dans son cabinet. C'est-à-dire, il y a un cadre précis avec un patient, un analysant, qui fait une demande d'analyse que l'analyste accepte de prendre en compte ou non. Donc, à partir de là, il y a un travail qui s'élaborera. Mais en dehors de son cabinet, l'analyste, il ne l'est pas. Et encore, dans son cabinet, l'est-il rarement. Il y a un analyste célèbre, décédé maintenant, Jean Clavreul, qui disait que l'analyste, il peut tout juste se rendre compte des moments où il ne l'a pas été, où il a manqué à l'être. Mais pour en revenir à ta question, savoir comment un virus a pu amener les gens à rester chez eux et les soumettre, si ce sont bien tes termes, eh ben ça oblige à considérer que le virus est un sujet. Et c'est toute la question. C'est-à-dire qu'un sujet, normalement, c'est ce dont il est question. Ou alors, c'est le sujet de... c'est celui qui parle. Mais est-ce qu'un sujet peut être un... précisément, est-ce qu'un donneur d'ordre peut être quelqu'un qui n'est pas doté de langage ? Que je sache, le virus, lui, ne parle pas, on le fait parler. Et c'est là toute la problématique, c'est qu'est-ce qu'on lui fait dire ? Et en tout cas, le premier allant, ça a été de lui faire dire, de l'amener à la contrainte des corps. Alors ça, c'est pas nouveau, mais c'est un constat. La contrainte des corps... et avec une très grande facilité et j'allais dire, un très grand naturel.
Tu disais que cette soumission n'est pas d'aujourd'hui, elle a déjà été existante dans des générations ou des siècles auparavant. Est-ce qu'on peut y trouver un rapprochement avec ce qui s'est passé aujourd'hui ?
Alors en fait, ce qui est... La soumission, c'est quand même un rapport au discours d'un donneur d'ordre, de ce qu'on appelle un maître. Et encore faudrait-il s'entendre sur l'idée de ce qu'est un maître. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'un petit manager dans une entreprise actuelle, c'est un maître, c'est un petit maître auquel on se soumet. Mais le maître, c'est aussi le maître traditionnel... qui officie dans la transmission des arts martiaux, et alors ce sera complètement autre chose, ou bien le maître antique, comme on nous le présente dans les différentes philosophies. Des soumissions comme celle à laquelle on a pu assister, c'est-à-dire, c'est, avant d'être une soumission, c'est une réaction collective. Là me vient... me vient l'époque du Troisième Reich, où effectivement Freud a écrit un très beau texte dans l'entre-deux-guerres, si ma mémoire est bonne. Je vais retrouver mes notes. Et en fait, ce texte, c'est « Psychologie des foules et analyse du moi », où il évoque effectivement le comportement des individus et des foules face à une personnalité par rapport à laquelle chacun peut se reconnaître. Mais avant de se reconnaître, il s'agit de disparaître, de se désagréger pour pouvoir trouver un trait d'identification au leader. Dit de manière très simple, le Covid a permis une chose tout à fait patente, c'est de faire communauté. Et le Covid, c'est d'une certaine manière, et d'une manière plus que certaine, ça peut être apparenté au corps de l'autre. Le corps de l'autre exclu, à partir duquel se fondent les communautés. Ça paraît tout à fait étonnant de faire ce rapprochement. Pendant 2 mois et demi, on a tous pu suivre dans les journaux une information univoque. Il n'y avait qu'un sujet. C'est vraiment, on revient à ça. Le virus est devenu un sujet. Ça pose question. À la fin du confinement, à la fin de la période dite de confinement, il y a eu 2-3 jours de battement pendant lesquels l'information a repris son cours, c'est-à-dire des informations absolument dispensables. Et quelques jours après, a eu lieu l'événement du meurtre de Floyd aux États-Unis. Et à nouveau, on a pu voir se dessiner des lignes de démarcation et voir comment un corps venait faire la répartition des masses qui pouvaient s'y référer. Autrement dit, on a toujours besoin d'un corps représentant le point d'appui pour se positionner par rapport à un lieu défini. Le Covid, on pourrait dire Covid égale rester chez vous, la mort est à l'extérieur. C'est une grave erreur. C'est-à-dire que précisément, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la mort. Et considérer que dans vos maisons, dans vos appartements, dans les jardins, parce que c'était chez vous, vous étiez protégé de la mort, c'est le meilleur moyen pour perdre les pédales et avoir de drôles de surprises à la fin du confinement, ce qui sont des choses qui arrivent, justement.
Ce virus invisible au regard, et pourtant il faut lui donner un aspect. Hein. Il y a cette icône de cet organisme. On peut pas parler d'organisme puisque ce n'est pas vraiment vivant, mais de cette espèce de sphère avec ces petites couronnes pleines de protéines. Donc, mais aussi on lui donne un autre aspect, c'est celui du chiffre. Et il y a aussi avant tout un aspect qu'on nous a mis assez rapidement à notre connaissance, c'est la probabilité de mortalité due à ce virus dans les semaines ou les mois qui allaient venir à ce moment-là. Ça rejoint aussi cet aspect aussi de la décimation, où on peut exterminer 10% de la population pour plier l'autre partie. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi qu'on pourrait rapprocher ?
Alors, pour déplier ta question... effectivement, c'est évident, là encore. Le virus, il faut une représentation. Donc c'est moins ce que ça représente pour chacun de ceux qui y ont affaire. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce que ça représente ? Et le tour de magie, le tour de passe-passe, c'est que c'est censé représenter la même chose pour tous. Alors que, tout à fait évidemment... ça représente quelque chose au moins de différent pour chacun et même de différent pour chacun à soi-même. C'est-à-dire que chacun n'est pas au fait de ce que ça peut représenter pour lui-même. Et il faut quand même se poser la question, c'est-à-dire travailler un minimum pour se rendre compte et aller à la rencontre de ce à quoi le virus vous renvoie et nous renvoie chacun un par un. Ça, c'est une première chose. Et pour le coup... en mouvement l'idée effectivement d'agrégation et de communauté, cette question de singularité. Ensuite, pour ce qui est de l'évocation des chiffres, moi j'aimerais parler de deux personnes ici qui ne sont pas psychanalystes, mais qui sont des personnes qui ont les outils les menant à une réflexion tout à fait singulière par rapport à ce qu'on peut entendre habituellement sur les ondes. Je pense à Alain Supiot, qui était professeur au Collège de France jusqu'à l'année dernière, qui est un juriste spécialiste du droit du travail. Alors, je conseille aux auditeurs d'aller sur la chaîne YouTube et de rechercher, donc, pour Alain Supiot, une série d'interviews qui durent entre 5 et 10 minutes chacune, dont le titre est « La gouvernance par le nombre ». Je crois que c'est ça. Et l'autre personne, c'est Laureline Fontaine, qui est une juriste également, qui a un site qui s'appelle « Le droit de la Fontaine ». Et vous verrez, il y a une rubrique actualité, ou à la une, je crois, où il y a quelques textes qui traitent du sujet. Et effectivement, le nombre, eh bien là, je vais, pour le coup, je vais vous faire un petit trait de psychanalyse. C'est-à-dire que l'analyse, contrairement à ce qu'on pense, en général, n'est pas là pour abonder dans la direction de donner du sens à tout, mais pour faire prendre conscience qu'il y a au fondement du sens du non-sens. Et on touche au non-sens le plus souvent par le biais de l'équivoque, des termes. Je crois, Yves, que tu as utilisé le terme de décimer. Eh bien, l'équivoque, c'est justement de détruire ou de décimal. Et qu'on n'a pas attendu, dans quelques milieux que ce soit, cet épisode du Covid, pour se rendre compte que s'il y a bien quelque chose qui va à l'encontre de la vie, c'est la gouvernance par les chiffres et par le nombre. Que ce soit dit, c'est le nombre qui a été au motif de la fermeture des lits de la maternité, et que ce soit, et je pense, la maternité. On peut prendre par exemple l'exemple des EHPAD, où j'ai entendu récemment cette anecdote qu'une personne âgée arrive dans un EHPAD, elle marche, mais dès le lendemain, elle est sur un fauteuil roulant parce qu'il faut faire du chiffre et il faut accélérer le rendement. C'est-à-dire qu'on en fait une personne invalide, ce qui n'est absolument pas différent de ce qui se passe dans une école primaire où vous avez des enfants qui, à 6 ans, vont rester assis 6 ou 7 heures par jour. Voilà, et bien ça, on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire c'est la représentation de ce qu'on se fait de la vie.
Donc, nous sommes égarés, hein, nous allons dans multiples non-sens, donc, et de là, l'inconnu, et l'inconnu aussi amène la peur. Et donc, quelle est la part de peur qui a pu être propagée pour soumettre la population ? Comment on y parvient d'ailleurs? On peut démontrer ça facilement en balançant à la connaissance des Français, par exemple, tous les chiffres possibles et contradictoires. Déjà là, plus personne ne comprend grand-chose. Je me souviens, c'était le total désarroi. Hein. Il n'y avait plus de phare, peut-être même.
Oui, c'est-à-dire, encore une fois, la question du repère. Je reviens avec insistance sur l'idée du sujet qui parle et qu'est-ce qui est représenté dans ce dont il est question. Comment c'est représenté? Encore une fois, on touche du doigt combien chacun aura sa réponse par rapport à une question comme celle-ci. Moi, je peux ouvrir simplement quelques portes. On parle de peur, on ne parle pas d'angoisse. La peur, ce qui est censé différencier la peur de l'angoisse, c'est que la peur a un objet. Vous arrivez, un ours surgit au détour du chemin, vous avez peur et vous savez quoi faire. L'angoisse a un caractère diffus, insaisissable, impalpable, parfois même injustifiable pendant un certain temps, mais tout à fait prégnant. il n'y a rien de plus facile que l'utilisation des chiffres pour venir boucher les trous. Je reviens à cette idée de la gouvernance par les nombres, mais précisément, à une époque où la science a réponse à tout, censément, il semblerait qu'elle se soit faite prendre à son propre piège. Ça ne sera pas la dernière fois. Mais la science, telle qu'on la conçoit, c'est précisément la mise hors circuit du sujet. Le scientifique se veut objectif, alors qu'en fait, la visée de son expérience n'est pas l'expérience qu'il est en train de conduire, mais très simplement le maintien hors de son expérience du sujet que lui est. Il ne doit pas s'impliquer, il ne doit pas se mettre dans l'expérience. Toute la question est de savoir comment on peut encore en être à imaginer que ce soit possible. Ça n'est pas possible. Et c'est même tellement pas possible que c'est attendu. La peur dont on parle, moi je trouve qu'elle était bien rassurante pour ceux qui l'ont vécu. Lorsque l'on dit qu'il ne faut pas se toucher, par exemple, c'est une parole biblique. Le jour de la résurrection du Christ, Marie-Madeleine l'a vu sortir du tombeau, elle s'est approchée de lui pour le prendre dans ses bras. Il lui a fait cette injonction dont on sait que c'est une tentative désespérée, justement, pour contraindre l'impossible. Donc des injonctions, nous on en a plein. On a affaire à beaucoup d'injonctions qui sont des tentatives désespérées, mais qui n'ont pas la main sur l'impossible. L'impossible est nécessaire. Marie-Madeleine s'est approchée du Christ, et le Christ lui a dit, donc, « Noli me tangere », ne me touche pas. Ce qui est à entendre, non pas comme « ne me touche pas physiquement », mais si tu acceptes le fait que tu ne puisses plus avoir accès à moi, tu vas être forcé à me croire et tu auras la foi. Tout ça pour dire que la Covid, soit on l'a éprouvée, et alors le corps en porte-parole, soit on en a entendu parler, c'est-à-dire l'immense majorité de nous tous, auquel cas c'est de l'imaginaire. De l'imaginaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité, et encore moins le réel. Le réel, c'est cet impossible dont je parlais tout à l'heure, nécessaire à ce que les choses continuent à avancer. C'est important de réaliser que c'est de l'imaginaire. Les chiffres viennent faire partie de cet imaginaire, c'est-à-dire que tout expliquer par les chiffres, tout contraindre par les chiffres et tout justifier par les chiffres ou par le nombre, ça participe de cet imaginaire, c'est-à-dire au point où il n'y a pas de rencontre avec le corps de l'autre. Et le « ne me touche pas » christique, ou le « ne me touche pas, ne vous touchez pas » en période de Covid, eh ben c'est tout à fait rassurant et c'est un outil pertinemment dangereux. C'est-à-dire que pour l'émetteur de l'ordre ou pour ceux qui le reçoivent, c'est très arrangeant. Parce que, pour sortir un peu du sujet, tout un chacun est tout à fait embêté avec sa sexualité. Et ce qui est tout à fait étonnant, si je veux le présenter comme ça, mais tout à fait attendu pour un analyste, c'est que précisément, vous n'entendrez jamais personne faire le rapport, c'est le cas de le dire, entre le « ne me touche pas » et l'arrangement sexuel. C'est-à-dire, précisément, quoi faire de son corps et de ce qui l'anime.
J'aurais envie d'amener l'aspect numérique aussi de cette aventure, que ce soit par Internet ou la télévision, la radio, la presse un peu moins, puisqu'il y avait moins de distribution. Donc on s'arrête sur l'aspect numérique. Cela veut dire aussi qu'un pays peut être dominé juste avec cet outil du numérique et même de sa surveillance, puisqu'on proposait presque à un moment d'avoir des autorisations sorties émises sur son portable. Donc quelle est cette part, cet aspect d'ailleurs de cette technologie sur la population, sur l'humanité par rapport à sa société ?
Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 4 mois, j'avais un rendez-vous avec les professeurs du collège de 2 de mes fils. la mère des deux garçons a posé une question au professeur, lui demandant s'il fallait qu'ils aient des ordinateurs à la maison pour mieux travailler. Ça faisait 5 minutes que l'entretien était commencé, elle était passablement énervée, et le professeur aussi. Et lui, tout sourire, mais très énervé, avec un joli petit accent chantant, lui répond « Ah mais je crois que c'est la base, comme une entreprise. Je l'ai fait travailler comme une entreprise. » Donc, ni une ni deux, la maman des deux garçons leur a acheté un ordinateur dans la semaine qui a suivi. Traduction à mes yeux, voilà quelqu'un qui parle d'enfants qui ont 11 et 12 ans. Il les fait travailler comme une entreprise, c'est-à-dire un claquement de doigts, et ce qui est le cas, du travail donné le vendredi à 19h ou 20h, le week-end, et les enfants sont soumis. On passe le confinement dans la Drôme. Eh bien, ils peuvent être au fin fond de la Drôme. Eh bien, c'est le cas de le dire, ça contrevient à cet ordre de « ne vous touchez pas ». C'est-à-dire que par la touche de l'ordinateur, on peut toucher n'importe qui. Mais on peut le toucher pas n'importe où. On le touche à l'endroit de sa platitude. C'est-à-dire à l'endroit où son corps n'a pas de volume. Et je reviens au volume, c'est-à-dire au corps sexuel qui prend le volume de la sexualité. La platitude n'a pas ni cette densité, ni ce volume. Et c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire de pouvoir être touché à l'endroit arrangeant, à l'endroit où ça ne pose pas de questions et ça ne pose pas de problème. Et l'histoire des ordinateurs ou de la soumission par le numérique, par le 0 et le 1, le 0 et le 1. C'est exactement la définition de... Donc c'est le système binaire. Pour moi, ça renvoie aux zébrures de l'animal. Le zèbre qui se cache avec ses zébrures. Mais l'animal dans la nature, il est même le plus féroce. Il n'est pas féroce. Il fait ce qu'il a à faire. Par contre, l'homme qui, lui, a affaire au binaire... Il se part du tout possible pour masquer le fait qu'il ne s'habille de rien. Et le discours auquel on a affaire est un discours qui ne supporte même pas le rien. C'est-à-dire qu'un discours qui tient la route, c'est un discours où il y a un impossible, où il y a quelque chose qui ne peut pas advenir, impossible à partir duquel le moindre discours peut s'étayer. Le discours auquel on a affaire actuellement, que ce soit un discours numérique ou un discours politique, c'est un discours qui n'a pas d'impossible. Tout est possible. Vous prenez les derniers slogans, que ce soit aux États-Unis ou en France, « Ensemble, tout est possible »,« Yes, we can ». Le « Yes, we can » de Obama, c'est très sympathique. Ça a donné Trump. C'est-à-dire, oui, on le peut, tout est possible, et ben à l'impossible, nul n'est tenu. Même, à l'impossible même, de dire l'impuissance qui découle de ces discours où il n'y a pas d'impossible. Et l'impuissance, eh ben, elle se manifeste comment? Vous pouvez voir tous les corps de métier qui ont un minimum de responsabilité. Ils reçoivent un ordre. Je reviens sur le Covid. L'éducation nationale. Vous allez réouvrir les écoles. Et puis après, si vous discutez un tant soit peu avec les directrices, les directeurs, les administrateurs d'école, ben, nous allons rouvrir les écoles, mais, puisque tout est possible, nous allons les rouvrir, mais comment, qui, quoi? Là, le discours s'effiloche, et précisément, on en revient au discours plat, c'est-à-dire qu'il y a un jet de parole qui s'effondre. Et ben voilà ce que c'est le numérique, c'est l'effondrement du discours.
Donc cette période de confinement, chacun s'est retrouvé seul, on peut dire, hein, noyé sous, si l'on voulait, sous les paroles de radio ou de télévision. Mais il y avait aussi, à un moment donné, une saturation de ces informations au point de s'en décrocher complètement. Et c'était aussi de se retrouver soi-même sur un instant présent, dans le silence. Et qu'est-ce que ça permettrait, ou qu'est-ce que ça a permis, au point de vue d'une population, cet aspect-là ?
Le silence.
Et d'être avec soi-même.
Ben, je reprends le mot pour mot ce que tu me dis, c'est que soi-même, ça sous-entend qu'il y a un soi qui soit plus soi que le soi, soi-même. C'est-à-dire, c'est d'aller à la rencontre de ce à quoi censément on n'a pas accès habituellement. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel de soi à soi-même. Et il ne s'agit pas vraiment de toucher le soi-même, mais de repérer le différentiel. À partir de quoi, dans ce différentiel, peut se déployer un autre type de parole à soi. De parole, de discours, c'est-à-dire de comportement. Et un comportement, c'est le corps dans l'espace. Pour aller droit au but, je ne sache pas que quoi que ce soit va changer. Parce que ce qui s'est passé, c'est un événement, mais ce n'est pas un événement qui change une subjectivité, c'est ce que le sujet du discours décide de faire d'une coupure. Ce n'est pas la même chose. L'événement, il y a quelqu'un qui est magnifique dans ce registre, c'est Edgar Poe, qui il a écrit 3 nouvelles où il fait apparaître la figure du détective génial à la Sherlock Holmes ou à la Arsène Lupin. Et son personnage s'appelle Dupin. Et Dupin donc apparaît dans 3 histoires. Il y en a une qui est très connue pour les psychanalystes, c'est la lettre volée. Mais il y en a une qui est particulièrement gratinée, qui s'appelle « Double assassinat dans la rue Morgue ». Et « Double assassinat dans la rue Morgue », c'est tous les ingrédients du crime dont on ne pourra pas trouver de solution. 2 femmes assassinées dans des conditions horribles et dans une pièce fermée. Et ce qui est passionnant, c'est de la mise en scène des témoignages. Et donc les témoignages sont des témoignages de voisins qui ont entendu des voix. Ils ont entendu les femmes crier, ils ont entendu une voix parler en français, et ils ont entendu une deuxième voix, tout à fait étrange. Et alors là, c'était un Hollandais, assurément. C'était un Italien, c'est sûr. C'était un Anglais. Bref, toutes les voix possibles et imaginables. La solution, c'est que c'était un orang-outan qui s'était échappé et qui a été rattrapé par son maître, donc la voix qui s'exprimait en français, mais trop tard, puisque l'orang-outan avait trucidé les 2 pauvres femmes. Et effectivement, la Covid ou l'orang-outan, on leur prête toutes les voix possibles qui font écho au silence dont tu parlais, et un silence qui renvoie chacun à sa subjectivité, c'est-à-dire chacun à ce qu'il fait et à ce que le langage fait de lui. Et c'est ce qui va à l'encontre de ce qu'on vit actuellement. Quand je parlais tout à l'heure des discours politiques qui sont tout puissants, c'est précisément de croire que on maîtrise le langage, alors qu'en grande partie, on est parlé. On est parlé. C'est-à-dire que le psychanalyste, lui, fait le distinguo entre la connaissance et le savoir. La connaissance, c'est la bibliothèque parfaite. Il y a des gens, vous appuyez sur un bouton et ils vous sortent c'est des connaissances encyclopédiques. Le savoir, c'est la bibliothèque où on sait qu'il manquera toujours un livre pour justement que les autres livres puissent bouger, changer de place. Mais il manque toujours un livre. Et le savoir, c'est ce qui appartient à chacun. Et évoquer le silence, c'est aller à la rencontre de ce savoir. Alors j'aimerais terminer là-dessus, pour cette question de silence. Il y a un très beau film de Herzog qui s'appelle Aguirre, la colère de Dieu, où on voit Klaus Kinski au fait de son art, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est acteur ou s'il est lui-même. Et il y a une bascule dans le film où on voit Kilinski qui est adossé à un arbre et surgit un Indien du fond des âges. La scène dure peut-être 30 secondes. Un Indien qui vient lui, au milieu de sa folie silencieuse, qui vient lui jouer un petit air de flûte de pan. Kinski a l'air perdu, puis pendant quelques secondes, il considère l'Indien. Et on sent que c'est le moment où l'Indien vient lui dire, au milieu du cyclone, l'œil du cyclone, c'est-à-dire on a traversé une tempête, il ne se passe rien, c'est-à-dire c'est le confinement, il est censé ne se passer rien, et on sait qu'on va repartir. Et moi, ce que je dis de ce redépart, c'est la possibilité unique que chacun a d'inscrire ses pas sur ses propres traces à l'endroit où il n'a encore jamais mis les pieds, c'est-à-dire de retrouver son soi-même à travers cet instant de suspension et de silence. Et bien, que fait Kinski à ce moment-là? Il considère l'Indien, puis il détourne le regard, il l'éjecte de son champ de vision et il court à sa perte. Pour ceux qui ont vu le film, il lui a été donné une possibilité de pivot, de changer le sillon de son disque, et il ne l'a pas saisi. Et je pense que précisément, ceux qui ont su aller à la rencontre du silence pendant cette période, c'est-à-dire à la rencontre de ce qui a toujours été pour eux, pourront s'en sortir différemment. Je ne dis pas s'en sortir, mais s'en sortir différemment. C'est-à-dire rendez-vous avec ce qu'ils ont toujours été.
Admettons être donc dans l'œil du cyclone, qu'on peut identifier donc avec ce confinement, hein, dans ce silence. Malgré tout, vu la répression sur l'expression, l'expression a besoin de s'exercer. Et dans un lieu de confinement, quelles sont les solutions? L'une d'elles semble-t-elle être, ça serait la violence. Il y a une recrudescence de violence sur les couples ou sur les enfants. Et quel est cet aspect-là aussi de cette expression de violence face à une soumission?
La violence dont on parle, elle m'est apparue au départ, sur les trois premiers jours, au niveau de ceux qu'on appelle les sans domicile fixe. Bon, il m'arrive de donner des cours de tai chi dans les parcs depuis une vingtaine d'années. On a vu les carences du milieu hospitalier, pas pour rien. Mais il se trouve que chacun le savait depuis longtemps, par exemple dans le domaine de la psychiatrie, et que beaucoup de ceux qu'on appelle les SDF sont des gens qui n'ont plus de place en psychiatrie, parce qu'il a fallu effectivement, pour en revenir à cette notion-là, il fallait faire des économies, et on jugeait que c'était pas le domaine le plus important. Donc ce sont des gens qui se sont retrouvés dans la rue. Eux, pendant les trois premiers jours, vous pouvez reprendre la presse, les conversations, bon, c'était des corps qui avaient disparu de la circulation du langage. C'est-à-dire que personne ne les prenait en considération. Au SDF, on est censé opposer ceux qui ont un domicile. Et bien précisément, ça ne va pas de soi. C'est pas parce qu'on a une maison qu'on a un chez-soi. Et je pense que ce qu'on appelle la recrudescence de la violence... Déjà, il y a la recrudescence de la violence, il y a la violence repérable, institutionnalisée et instituée. Et puis, il y a toutes les violences qui passent à travers les mailles du filet. Et pour le coup, là, je laisse à chacun faire un effort d'imagination pour aller à la rencontre de ce que peut être la violence autre que celle qui fait référence pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas que la violence faite aux femmes, pas que la violence faite aux hommes, pas que la violence faite aux enfants, dans le milieu familial. Y a les enfants entre eux, y a la violence du corps, de la contrainte, et s'il y a des effets à repérer, c'est certainement pas sous le prisme du moment où ça s'est passé, mais du moment où ça se passera. Je donne rendez-vous effectivement à tout le monde d'ici quelques mois, pour constater qu'il y aura eu d'autres effets que ceux auxquels on peut avoir affaire maintenant et qui sont vraiment qui sont convenus, entre guillemets. Chacun amène à des situations qui sont absolument insupportables, mais c'est tout à fait convenu. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont répertoriées par avance. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la surprise et le jaillissement. Et je pense qu'il y a des violences... la seule vraie violence qui soit questionnante, parce que celle dont on parle, on a des réponses. Ce qui m'intéresse, c'est celle dont on n'a pas idée. Et je pense qu'une rupture comme celle qu'on est censé avoir vécue sur ces quelques mois, faut pas imaginer que c'est posé sur une ligne temporelle classique. Et effectivement, les effets qu'on va pouvoir constater, il va falloir se préparer à ce que ce soit quelque chose qui soit de l'ordre de la surprise. Et certainement aussi inouï que le surgissement de cette période.
Une période est passée, donc, et nous sommes dans ce déconfinement. Tu parles de surprises. Est-ce qu'on peut, suite à cet épisode, découvrir de belles surprises ?
Alors là, des belles surprises, c'est vraiment ce qui caractérise le discours psychanalytique. C'est-à-dire le surgissement dans la parole de quelque chose qui n'appartient qu'à celui ou à celle qui est en train de parler, dont il se fait le propre témoin, à quoi il donne corps, mais c'est un peu du registre de l'ouverture, fermeture subreptice, comme lorsqu'on se souvient d'un rêve. Pourtant, dans le champ de la psychanalyse, effectivement, cette ouverture, si subreptice soit-elle, a des effets. Dans le cas qui nous intéresse, la surprise, je serais cynique si je me positionnais en dehors de ce que je vais dire, mais j'en fais partie, c'est-à-dire j'en suis partie prenante, c'est-à-dire que je vais avoir affaire à ça. Je pense que la surprise, c'est une espèce de surenchère. Prenez les derniers termes qui sont apparus sur les dernières années, des termes du quotidien, développement durable, bienveillance, enfin, tous les termes qui font plaisir à entendre, dès qu'ils tombent dans le... J'allais dire, ils tombent dans le commerce. Voilà, ce sont des termes avec lesquels on peut faire commerce. Ce sont des termes qui sont de bonne volonté, hein, matériaux dont est pavé l'enfer, les bonnes intentions, mais ils tombent dans le commerce. C'est une valeur ajoutée qui fera défaut à celui qui l'utilise. Attendre de cette période une bonification, oui, une bonification tarifaire. Actuellement, vous prenez, mais dans n'importe quel champ, dernier exemple en date, université à Paris. Je ne suis pas un universitaire, mais j'en ai eu vent. Est proposé aux professeurs des universités. Professeur des universités, c'est pas seulement une fonction, c'est un titre. C'est 10-15 ans d'études. Est proposé aux professeurs des universités le fait d'être payé une heure pour une heure et demie de travail, si le travail est fait à domicile. C'est-à-dire que ce discours dit capitaliste, mais on pourrait dire libéral, néolibéral, précisément, c'est une dénomination qui évolue parce qu'il n'arrive jamais à toucher la mire. C'est pour ça que le titre évolue, mais la fonction reste la même, c'est-à-dire que la valeur ajoutée ne tombe pas dans la poche de ceux qui travaille. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est exactement ça. Pendant une période de grève dans une entreprise, les salariés vont avoir un salaire en moins, ils vont être obligés d'augmenter les objectifs après la période de grève. On va leur dire, puisque vous êtes arrivé à augmenter les objectifs, on va maintenir les objectifs plus haut. Et c'est comme ça, et vous ne serez pas plus payé. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'actuellement, la seule surprise qu'on puisse avoir, c'est que tout roule comme avant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu un arrêt, chacun va devoir le payer. Et chacun, je pèse mes mots, chacun va s'identifier à la parole injonctive qui va dire « c'est normal ». Et je pense que s'il y a des contre-exemples, ils seront absolument individuels et comme toujours, pratiquer de manière discrète. Voilà.
En général, la Covid n'a pas amené de soumission plus qu'avant, en somme.
Non, je pense qu'il n'y a pas plus de soumission qu'avant. Et que c'est même, là encore, je reprends le terme, c'est pas tant, c'est comment chacun s'y fait et en jouit. C'est une jouissance, c'est-à-dire que c'est une répétition. Et il ne faut pas confondre la dénomination et la pratique, la Covid et la période qu'on vient de traverser, avec les effets sur la subjectivité de chacun. C'est-à-dire que la subjectivité de chacun, c'est est-ce que je suis dans la répétition et est-ce que je peux m'en empêcher ou pas. Je laisse la question ouverte, mais je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de révolution. Une révolution, c'est un retour à la même. Une rotation qui fait que les choses reviennent à la même chose. Sauf que là, elles reviendront à la même, mais en plus dur. Et il ne faut quand même pas être... pas besoin d'être prophète pour deviner à quoi ça va mener.
Jean Thibault Foutier, je te remercie d'être venu pour nous parler de cet aspect du Covid sur l'humanité, en quelque sorte. On peut certainement aussi te retrouver sur Internet.
Oui, alors je l'ai dit en début d'émission, mais je redis. Donc j'ai un site www.tybolt.fr, tybolt.fr. où je présente les différents aspects de mes travaux. Voilà, et je te remercie pour ton accueil.
Eh bien, bonne soirée.
Au revoir.